Fréquence Terre en direct du Salon Planète Durable à Paris. Retour donc en direct sur le plateau de la Porte de Versailles, au Parc des Expositions à Paris. Nous avons un plateau aujourd'hui qui est organisé par FéminBio.com avec Anne Guéquière. Bonjour Anne.
Bonjour Frédéric.
Et vous avez invité Christian Brun, il est naturopathe. Nous allons donc parler de naturopathie. Il est auteur de nombreux livres sur la naturopathie. Avec Anne Guéquière donc.
Christian Brun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturopathe?
Oui.
Vous allez nous expliquer cette profession, qui est votre profession. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes également conférencier. Vous avez écrit combien de livres ce jour?
J'ai écrit huit ouvrages.
Huit ouvrages.
Il y en a un prochain qui va sortir bientôt.
Oui.
Sur le grand livre de la naturopathie.
Le grand livre de la naturopathie que j'ai eu la chance de relire et qui est un livre merveilleux qui parle effectivement de tous nos petits mots et qui explique quel est ce métier. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la naturopathie?
Alors, si on veut donner une définition tout à fait succincte de la naturopathie, on peut dire que c'est une hygiène de vie conforme à notre physiologie. En d'autres termes, pour être beaucoup plus simple, c'est l'art de rester en bonne santé. C'est-à-dire que normalement, le naturopathe ne s'occupe pas de la maladie ni de la pathologie. Il s'occupe aux gens de donner des règles. On est des éducateurs de santé pour leur apprendre à bien se nourrir, à bien respirer, à bien se relaxer. Bref, d'avoir une hygiène de vie qui soit tout à fait conforme en fonction de nos organes et en fonction de nos possibilités, bien sûr, sociologiques, climatiques et autres.
Pour ne pas tomber malade. Donc.
Pour ne pas tomber malade, entre guillemets, tomber, parce que c'est vrai que c'est un péjoratif quand on dit tomber malade. Et c'est vrai qu'on essaye, nous, de travailler sur le terrain. C'est ça qui est très fondamental, parce que si on a un terrain qui est favorable, eh bien, on va pouvoir avoir des pathologies infectieuses ou alors des pathologies métaboliques du style cholestérol, diabète et autres. Donc, on essaye de travailler sur notre terrain pour essayer de faire de telle manière qu'il n'y ait pas d'emprise, justement, soit sur les microbes, soit sur des pathologies que je viens de vous citer.
Alors, il paraît que Claude Pasteur aurait dit sur son lit de mort, Claude Bernard avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Tout à fait, absolument, bien sûr. Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, c'était absolument fondamental. Et vous savez, moi, j'ai été formé par Pierre-Valentin Marchessault, qui a été un des fondateurs de la naturopathie française moderne, en revenant des États-Unis. Et il disait, si vous avez, par exemple, un terrain qui est favorable aux moustiques, qu'est-ce que vous faites? Soit vous prenez une bombe anti-moustique tous les jours, soit vous asséchez le marécage. Parce que pour qu'il y ait des moustiques, il faut qu'il y ait un marécage. Eh bien, nous, en naturopathie, on essaie d'assécher le marécage. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de telle manière que l'organisme ne va pas avoir de prise, justement, sur la possibilité d'installation d'une pathologie infectieuse, entre autres.
Quand vous parlez de terrain, vous parlez de notre corps.
Alors, le terrain, quand on parle du terrain, il y a un grand terrain avec un T majuscule. Il est formé de plusieurs possibilités de petits terrains. Il y a le terrain génétique qui est là, bien entendu, sur lequel on ne peut quasiment rien, parce que c'est génétique. Alors là, le naturopathe, peut-être que dans les années qui vont suivre, peut-être qu'on aura la possibilité de travailler sur les gènes. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est pas possible. Ensuite, il y a le terrain génétique, mais humoral. C'est-à-dire, lorsque l'on fait un enfant, on transmet à son enfant un certain terrain humoral. Alors, qu'est-ce que sont les humeurs? Ce sont les liquides qui composent notre organisme. Ce sont ces liquides qui alimentent les cellules. Plus les cellules sont alimentées correctement et débarrassées de leurs déchets, mieux ça se passe. Le problème, c'est que petit à petit, on apporte des éléments nutritionnels avec des aliments qui sont frelatés, chimiqués, industrialisés et surcuits, etc. Donc, petit à petit, la cellule s'encrasse. Et ensuite, elle n'est pas débarrassée suffisamment des déchets. Or, nous avons des filtres bio-émonctoriels, c'est-à-dire des émonctoires, comme on appelle, qui favorisent l'évacuation des déchets.
Comme les poumons, par exemple.
Par exemple, le foie, vésicule, intestin, la voie respiratoire, la peau et les reins. Si on arrive à avoir une balance entre l'apport nutritionnel correct avec les déchets métaboliques, ce qui est tout à fait physiologique, et si on arrive à débarrasser la cellule et les humeurs de ces déchets, tout se passe bien, il y a un équilibre entre les entrées et les sorties. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, on mange surtout des aliments frelatés, chimiqués, industrialisés, surcuits, blanchis et tout ce que l'on voudra. Et je pense qu'il y a eu une intervenante tout à l'heure
qui a parlé Isabelle Saporta nous en parlait à
absolument.
L'instant.
Et ensuite, on a des émonctoires qui ne fonctionnent pas suffisamment. C'est vrai qu'au niveau des reins, en général, ça va. On urine correctement. Intestin, foie VB, il y a déjà une limite.
VB.
Vésicule biliaire, excusez-moi.
Comment peut-on...
Je suis un peu habitué.
Vous êtes habitué. Alors, je rappelle aussi que vous êtes professeur au Sénato, donc vous enseignez à des futurs naturopathes.
Tout à fait.
Ça fait combien... Vous faites ça depuis...
Ça fait à peu près une quarantaine d'années que je suis naturopathe. Ça, c'est pas très gentil de me poser ce genre de questions, Anne.
J'en ai oublié ma question, Frédéric.
Moi, j'aimerais savoir quels sont vos outils, de quelle façon alors vous intervenez. On parlait aussi avec une personne qui est venue nous parler des huiles essentielles, de détox.
C'était Guillaume Géraud, oui.
Guillaume Géraud, on parlait de la façon dont on pouvait éliminer, favoriser le fonctionnement des poumons, par exemple, ce genre d'organes dans notre corps. Le naturopathe, il a quel panel d'outils ? Comment il intervient pour justement enlever toutes ces substances ? Je pense que c'est un petit peu le but de vos interventions.
Bien sûr.
Nous débarrasser des substances qui sont encombrantes.
Oui, mais surtout de ne pas en apporter déjà.
D'arrêter. Alors c'est quoi ? Voilà. C'est de l'éducation. Alors,
ça, c'est l'éducation. On est des éducateurs de santé plutôt que des thérapeutes au sens exact du terme. Donc nous, on dispose à peu près de 10 techniques. Et moi, j'ai rajouté une 11e technique, c'est la notion de plaisir. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental d'arriver à faire un travail avec plaisir. Ne rien faire avec plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte.
Comme un programme qu'on suivrait pendant 30
absolument.
Jours.
Oui.
Alors, on va revenir sur les 11 grands principes quand même. Mais ma question m'est revenue. Et donc, comment sait-on que nos corps sont pollués et ont quand même besoin d'un nettoyage d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'on peut mesurer ces taux de pollution et quels sont les outils finalement ? Est-ce qu'il faut faire une batterie d'examens ? Comment est-ce que vous faites ?
Non, il y a déjà des signes cliniques. Par exemple, un rhume, ça veut dire qu'on a un certain encrassement, un rhumatisme, ça veut dire qu'on a un encrassement au niveau acidose, etc. Et on a déjà des signes cliniques. Puis ensuite, on a toutes des tests de vitalométrie, nous, en ce qu'on est les naturopathes. Par exemple, on va regarder dans les yeux, on va faire de l'iridologie. Ça va nous apporter en fonction de la couleur, en fonction de la trame, en fonction de certains cercles qu'on va retrouver dans les yeux, ça va nous apporter des renseignements. On va regarder également les lunules au niveau des ongles, si les ongles sont striés, s'il y a des taches blanches, etc. Bref, on a toute une panel d'outils qui nous permettent de voir si la personne s'est encrassée et surtout si elle dispose encore de beaucoup de vitalité.
Je crois que vous faites, les gens répondent aussi à un questionnaire, c'est ça, sur leur santé, assez approfondi.
Tout à fait, on appelle ça une anamnèse. Donc en fonction de cette anamnèse, d'accord, eh bien, on va pouvoir orienter la personne soit vers ce qu'on appelle une cure de désintoxication, si la personne a suffisamment de vitalité, et si elle n'a pas suffisamment de vitalité, à ce moment-là, on va la diriger, au contraire, vers une cure de revitalisation. Et bien sûr, pour cela, on va disposer de 4 techniques majeures en naturopathie. C'est bien sûr l'alimentation, c'est absolument fondamental. Ensuite, on va avoir le côté psychorelaxation, donc détente, visualisation, méditation et autres. On va avoir l'exercice physique, qui est absolument fondamental pour essayer d'éliminer les déchets. Et puis ensuite, 4e technique majeure, c'est l'hydrologie, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau, soit à des fins internes, soit à des fins externes, pour favoriser le passage des humeurs, donc les fameux liquides, c'est-à-dire le sérum, le plasma, la lymphe intracellulaire et extracellulaire, pour que ces liquides passent un nombre de fois beaucoup plus important au niveau des filtres émonctoriels. Et plus ces liquides vont passer dans les filtres, mieux ils seront épurés. C'est un peu comme si, par exemple, au lieu de passer 1 litre d'eau croupie dans un filtre, vous en passez 10 litres. Si vous en passez 10 litres, vous aurez 10 fois plus de déchets. Et bien, en naturopathie, on essaye d'activer ces humeurs pour qu'il y ait une meilleure épuration des liquides.
On se renouvelle, tous les organes de l'être humain se renouvellent. On arrive comme ça à épurer, renouveler, faire du neuf avec...
Jusqu'à un certain point. En fonction de l'usure, bien sûr, qu'on a été. Si on a été jusqu'à un certain point de non-retour, il n'y a plus de possibilité. Je vous prends le cas du foie, qui est un organe qui m'est très cher. On supprime 3/4 d'un foie. En un mois de temps, il se régénère anatomiquement et physiologiquement. À une condition, c'est qu'il y a encore des cellules germinatives. S'il n'y a plus de cellules germinatives au niveau du foie, il ne peut pas se régénérer. Mais à une condition également, c'est que le foie, on lui foute la paix. Si on est sans arrêt en train de le stimuler avec des médicaments, que ce soit des médicaments allopathiques, que ce soit avec des médicaments même naturels, parce que là aussi, la démarche, quand on change un médicament et qu'on prend un produit naturel, ce qui bien sûr est beaucoup plus intéressant, mais si la démarche est antisymptomatique, la démarche est strictement la même.
Expliquez-nous, antisymptomatique.
Alors, antisymptomatique, il y a une image qui est très compliquée. Vous prenez votre voiture, et puis d'un seul coup, il y a un petit voyant rouge qui s'allume. D'accord ? Donc vous précipitez chez le garagiste. 2 catégories de garagistes. Vous êtes le garagiste qui vous dit, écoutez, il va falloir que vous reveniez dans une semaine parce qu'il faut que j'étudie pourquoi le petit voyant rouge s'est allumé. C'est peut-être la batterie, c'est peut-être une courroie, c'est peut-être quelque chose. Puis il y a l'autre garagiste qui va vous dire, oh ben, revenez dans 5 minutes, ça va être réglé. Donc, si vous allez dans le second garagiste, vous revenez, vous démarrez votre voiture, le petit voyant rouge ne s'allume plus. C'est formidable. Vous dites, il est extraordinaire, ce type. C'est pas... Vous savez ce qu'il a fait ?
Il a retiré
l'ampoule. Il a retiré l'ampoule. Ouais. Donc voilà. Donc, en allopathie, vous avez mal à la tête, on vous donne un comprimé, vous n'avez plus mal à la tête. Mais nous, naturopathes, on va se poser la question, on va se dire, pourquoi vous avez mal à la tête ? Ça peut être un problème visuel, ça peut être un problème auditif, ça peut être un problème de cervical, ça peut être un problème de pied plat, de foie, etc., etc. C'est pour ça que moi, mes élèves m'appellent Dr House, parce qu'il faut chercher en permanence, justement, quelle est la cause de la cause de la cause.
Alors justement, là, en revenant sur le foie, parce que je sais que cet organe vous est cher et à moi également. Alors comment on fait, et puis il est tellement important finalement dans ce rôle de draineur et d'émonctoire, comment fait-on pour le soulager, pour l'alléger ? Est-ce qu'il faut qu'on pratique des cures ? Là, typiquement, on est au printemps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre foie, tout ce temps que nous sommes ?
Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez un foie qui est suffisamment puissant et on va pouvoir le drainer. Et dans ces cas-là, on va donner des plantes amères qui contiennent beaucoup d'éléments soufrés.
Par exemple ?
Donc, par exemple, radis noir, artichaut, pissenlit, fume-terre, gentiane. La gentiane est très intéressante parce qu'elle est en même temps draineuse hépatique et en même temps antidépressive.
Sous quelle forme ? Tisane, gélule
Ou un petit coup dessus, si vous voulez.
Hein ?
L'alcool va pas détruire quelques cellules du foie.
Si, non, mais c'est une plaisanterie, bien entendu.
Il y chute, mais il y a un million d'auditeurs qui nous entendent.
Il y en a un qui a la suze ici.
Regardez la couleur de la suze.
Ouais.
Elle ressemble étrangement à la bile, d'ailleurs. Donc tous les éléments soufrés et amers vont être draineurs hépatiques. Mais une condition, c'est que le foie soit suffisamment puissant pour supporter ce drainage.
Donc, il faut y aller mollo.
Donc
quand même.
Il faut y aller piano. D'accord. Piano.
Pourquoi est-ce qu'on donne de l'eau citronnée à des personnes qui font des cures alcooliques ?
Ah ben parce qu'il y a des principes au niveau du citron qui permettent la réaction du foie.
Donc là, on n'est pas du tout sur le côté amer.
C'est exceptionnel le citron là.
D'accord.
C'est exceptionnel. Sinon, en général, c'est plus des produits amers, le soufre et autres.
Okay. D'accord.
Par contre, si on n'a pas suffisamment de vitalité au niveau du foie, c'est-à-dire que lorsqu'il est trop faible, on l'a trop sollicité, etc.
Trop de repas copieux, par exemple.
Par exemple, en prenant un peu trop de suze aussi, par exemple, eh bien, on va régénérer le foie cette fois-ci. Et là, on va donner des plantes qui, ça va être par exemple du desmodium, ça va être du chardon-marie. Et puis surtout, on va mettre de la chaleur sur le foie. Le foie est l'organe le plus chaud de l'organisme.
Ah oui, c'est le coup de la bouillotte, hein,
tout
c'est
à
ça
fait. Il a une température d'à peu près 42 degrés de température interne, le foie. Donc il faut le réchauffer. C'est la raison pour laquelle les anciens mettaient la bouillotte ou alors mettaient une ceinture de flanelle également autour du...
D'accord. Est allé hier soir, par exemple, je suis allé dîner chez des amis. Évidemment, ils m'ont servi ce que je mange très peu habituellement le soir, c'est-à-dire des protéines animales à l'entrée, au plat, presque au dessert. Et donc, je me suis couchée, j'avais le foie un peu chargé, j'aurais dû penser bouillotte, typiquement.
Absolument. Ça, et puis les pieds au chaud.
Ah, les pieds au chaud également.
Et oui, parce que le fait d'attirer le sang vers la périphérie au niveau des pieds, ça permet de trouver un sommeil beaucoup plus intéressant puisqu'on décongestionne la tête. C'est la raison pour laquelle les anciens encore, il faut reprendre toujours les références des anciens, ils bassinaient le lit pour ne pas rentrer dans un lit froid. Parce que quand on a froid aux pieds, et je pense qu'ici, on l'a tous fait de l'expérience, on ne peut pas dormir si on a les pieds froids.
Alors on peut pas observer tout ça en étant naturopathe à la base. Je suppose qu'il y a une formation de médecine conventionnelle à la base, non ?
Pas du tout.
Comment est-ce que vous avez réussi à arriver à toutes ces observations, à en déduire les mécanismes ?
Bah écoutez, moi d'abord, j'étais toujours très intéressé par tout ce qui était un peu médical, anatomique et autres. C'est mon petit dada, l'anatomie physiologie. Donc ensuite, j'ai suivi les cours de Pierre-Valentin Marchessault. Et puis ensuite, j'ai eu l'avantage d'avoir été son assistant pendant 7 ans. Donc, on a tourné en France, à l'étranger, en niveau conférence, stage et autres. Puis, j'ai continué ma formation en aromathérapie, en sympathicothérapie, en psychothérapie, etc. pour petit à petit arriver à avoir, on va dire, un bagage un peu plus important. Et puis ensuite, surtout en enseignant, parce qu'en enseignant, ça nous apprend d'apprendre, ça nous permet d'apprendre encore des choses complémentaires en permanence.
Là, on était, si on continue effectivement sur la stratégie naturopathique un peu de printemps, on a parlé d'alléger le foie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au printemps ? Alors, le printemps, je rappelle qu'on a quand même l'énergie de la sève qui remonte. Hein. Donc, en médecine chinoise, c'est un moment qui est très important aussi pour drainer notre corps, c'est ça ?
Pas toujours drainer, parce que justement, comme la sève, elle monte, il y a énormément d'énergie. C'est un renouveau, en quelque sorte. Et justement,
on est une plante, dans ce cas-là. Au printemps, nous aussi, on a la sève qui monte ?
Ah non, on a la sève qui monte aussi. Il y a certains hommes qui ont beaucoup de sève qui monte aussi. Hein. Excusez-moi, mais...
Bon, oui, non, mais
là,
oui.
Je suis en train de freiner la bête parce qu'en général, je suis beaucoup plus.
Mais lâchez-vous, vous avez le droit.
Là,
on vous y autorise.
En général, quand on fait des chroniques sur Ushuaïa TV, on rigole bien avec Christian.
Non, mais donc, c'est vrai que l'organe qui est le plus sollicité pendant le printemps, c'est le foie, justement. Et en médecine chinoise, justement, c'est l'organe le plus important, c'est le foie. Alors, reste à savoir, et là, c'est encore le naturopathe qui va pouvoir déterminer ça, en fonction des tests de vitalité, si on va drainer le foie ou si, au contraire, on va le revitaliser. Quelquefois, il faut le revitaliser surtout au printemps. Pourquoi ? Parce que sinon, on fait une décharge à tout point de vue. Donc, les déchets vont remonter à la surface et on fait ce qu'on appelle des crises curatives, qui peuvent être physiques. Je vais vous expliquer ce que c'est.
Oui, voilà.
Soit des crises curatives physiques ou psychologiques, voire émotionnelles. Et c'est vrai qu'au printemps, quelquefois, on a l'anxiété, on a les peurs, on a des tas de choses comme ça qui peuvent remonter. Qu'est-ce que c'est qu'une crise curative ? Ben, ce sont des manifestations physiques ou psychologiques qui se manifestent. Donc, quand on draine un foie qui est trop encombré, ben, quelquefois, on peut voir apparaître des insomnies, on peut avoir apparaître, par exemple, une langue blanche, des boutons, et des tas de manifestations comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, parce que, en tant que naturopathe, on comprend l'évolution, on comprend pourquoi ça se passe comme ça. Donc, dès que ça part à l'extérieur, c'est tout à fait positif. Mais en consultation, le patient, lui, il a du mal à comprendre que d'un seul coup, il draine son foie, il a plein de boutons qui sortent, ou une mauvaise haleine, ou des diarrhées, des choses comme ça.
Est-ce que vous agissez aussi dans vos diagnostics
C'est pas de diagnostic.
Alors, comment ça s'appelle ?
On fait un bilan de vitalité.
Un bilan de vitalité.
Ce ne sont pas des médecins. Hein.
Dans votre analyse de ce qui va mal, vous prenez en considération, par exemple, les astres, la lune
Non, en ce qui me concerne, non. Moi, je n'ai pas cette formation, donc je ne me permets pas de
juger. On en parlait un peu sur ce plateau. Mais... On disait que la lune pouvait avoir une influence sur les cellules, que si elle avait une influence sur l'eau au point de créer des marées, elle devait avoir aussi une incidence sur notre corps, qui est composé à 98% d'eau, c'est ça ?
Tout à fait, absolument. Donc, pas 98%, c'est entre 60 et 70%.
Donc c'est moins.
D'eau, ouais, ouais, tout à fait. C'est le plasma qui est composé de 98% d'eau.
Donc pour vous, ça c'est quelque chose dont...
Moi je le fais pas, mais j'y crois, hein, parce que c'est vrai qu'on a tous plus ou moins fait l'expérience quand on se fait couper les cheveux en pleine lune ou en lune descendante,
plus d'accouchements,
les accouchements, etc. Et moi j'ai pas cette formation, donc je n'utilise pas ce sujet.
Je vais rebondir justement sur les accouchements. On a donc un public là sur le salon Planète Durable en direct. C'est une question de Manu. Ma fiancée souhaiterait avoir un enfant. Mais avant, elle souhaiterait préparer le terrain. Que peut-elle faire ? Est-ce que là, vous intervenez ?
C'est une bonne question.
Si elle le fait en amont de la grossesse, c'est excellent, au contraire. Et non pas faire comme une femme un jour qui me téléphone, « Écoutez, monsieur Brun, est-ce que vous suivez les gens qui font des jeûnes ?» Je dis « Oui, ça m'arrive, bien entendu, des jeûnes courts. » Elle me dit « Non, parce que voilà, je suis enceinte et je voudrais me nettoyer. »
Oh là là.
Je dis « Non, ce n'est pas le moment, c'est le faire avant, ou alors vous le ferez après. » Donc, faire une cure de désintoxication avant la grossesse, c'est tout à fait indiqué. Mais la maman et le papa, les deux, ils sont pour 50%. Donc, on va faire, par exemple, ce qu'on
appelle... avant de procréer.
Bien sûr, tout à fait.
C'est-à-dire pas au début de la grossesse.
Non, bien entendu. Non, c'est fini.
Alors, qu'est-ce que vous conseillez, alors?
On va faire ce qu'on appelle un régime hypotoxique. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'alimenter avec le maximum de peu de déchets, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une alimentation à base de légumes crus, de jus crus, des céréales complètes ou demi-complètes, des légumineuses, un petit peu de poisson, par exemple, un petit peu de viande blanche si on n'est pas végétarien. Voilà, on essaie de prendre des aliments, bien sûr, le plus bio possible pour éviter encore d'encrasser l'organisme avec des produits insecticides, pesticides, fongicides et toute la clique. Voilà. Et puis ensuite.
Combien de temps ça ?
Oh, bah, ça, c'est fonction de chacun. Parce qu'il y en a qui sont très intoxiqués. D'accord ? Puis il y en a d'autres qui sont peu intoxiqués.
Donc ça peut redonner de la vitalité. Si les gens, par exemple, ont des difficultés à avoir un enfant, ça peut aussi redonner de la vitalité aux spermatozoïdes, typiquement.
Ah bah, bien sûr.
Oui. C'est ça, c'est-à-dire que le meilleur sera le meilleur des meilleurs. C'est un super-héros, là.
Et puis ensuite,
mais je rappelle que la fertilité masculine a chuté de, vous allez me corriger, Christian, de 50% à peu près en 50 ans.
Alors, tout à fait.
J'en parlais à mon fameux dîner d'hier soir. Tout le monde ricanait en disant, c'est quoi cette histoire ?
Ah bah non, mais il y a l'eau de boisson, l'eau du robinet. D'accord.
Alors, je voulais vous poser cette question-là. Vous disiez, il faut boire beaucoup
J'ai pas dit ça.
S'hydrater. Comment vous avez formulé la chose en disant, il faut renouveler notre sérum intérieur.
Ouais, mais il faut le nettoyer surtout. Mais il faut boire, mais pas trop.
En disant 10 fois plus. J'ai mal interprété les choses.
Si vous buvez trop, vous allez solliciter trop vos reins. Donc, vous allez fatiguer vos reins à un moment donné. Donc, boire un litre et demi en fonction de l'alimentation. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation faite de fruits et de légumes, vous avez moins besoin de boire un litre et demi. D'accord ? Par contre, si vous mangez que des céréales ou que des féculents, là, il va falloir que vous buviez énormément d'eau.
Alors, de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille ?
Alors, justement, ça revient sur ma question de la fertilité. Christian, vous alliez y répondre juste avant que Frédéric vous repose la question, la précision. Et ça rejoint l'idée de l'eau, justement, de l'eau du robinet. Allez-y.
Alors, dans l'eau du robinet, bien sûr, il y a plein de déchets. Il y a notamment des nitrates, il y a l'aluminium, quelquefois il y a même encore des traces de plomb, d'accord ? Alors c'est vrai que l'eau du robinet, notamment l'eau de Paris par exemple, biologiquement, elle est parfaite. L'eau biologiquement, bactériologiquement, elle est parfaite, il n'y a pas de microbes, etc. Par contre, elle est dépourvue de vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus rien.
C'est inerte.
C'est complètement inerte. Plus les déchets, plus le pH de l'eau du robinet qui est néfaste, elle est basique, alors qu'une eau doit être légèrement acide.
Des résidus de médicaments également ?
Des résidus de médicaments, d'hormones, etc. Et ce qui fait que justement, il y a une action au niveau de la fertilité masculine. Sans oublier le portable également.
Quand vous parlez de résidus d'hormones, vous voulez dire que les personnes qui prennent la pilule et qui ensuite vont aux toilettes naturellement, ceci n'est pas filtré potentiellement ?
En totalité, non.
D'accord, donc d'accord. Ça se retrouve dans nos corps. Alors, je continue sur le... Oui,
ouais, je voudrais encore dire, il y a encore le portable également.
Que on est sur les ondes électromagnétiques.
Tout à fait, que les hommes, et surtout les jeunes portent dans le pantalon. Moi, je vois mes gamins, ils mettent le portable dans leur pantalon, près des organes sexuels. D'accord. Oui. Donc, là aussi, il va y avoir aussi, peut-être dans les années à venir, encore des grosses catastrophes.
Donc, là, attention,
il faut
les
déposer
jeunes.
Son téléphone. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus le supprimer parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais essayer peut-être de ne pas s'exposer de trop aux ondes.
D'accord. Alors, je reviens aussi... On n'avait pas fini sur le printemps. Excusez-moi, Frédéric, mais je suis bretonne. Je suis un peu têtue sur mon idée de printemps. Qu'est-ce qu'on privilégie sur l'alimentation de printemps, justement ? On a parlé un petit peu des stratégies en termes de phyto et pour détoxifier et revitaliser le foie. Mais qu'est-ce qu'on privilégie comme alimentation ?
Alors, l'alimentation la plus crue possible. D'accord ? Donc, soit des légumes crus sous forme de crudité, avec des huiles de première pression à froid vierges et biologiques, notamment pour le cerveau. Je vous rappelle que le cerveau, il est fait pour 70% d'un acide gras essentiel qu'on appelle l'oméga. La DHA.
Ah non, pas du tout.
C'est DHA, c'est quelque chose d'extraordinaire. 70% de la fraction solide du cerveau est faite d'acide gras. Donc on a énormément besoin de prendre des huiles de première pression à froid vierges et biologiques. On a besoin à peu près de 3 à 4 cuillerées à soupe d'huile par jour.
Et je crois que notre cerveau en consomme en plus beaucoup la nuit, il me semble. Hein.
Tout à fait. Et puis quand on fait des interviews, comme en ce moment.
Ah, de l'huile, vite, de l'huile.
Voilà, on vous sert du thé, désolé.
On va mettre de l'huile un peu dans les rouages, c'est
ça ? On avait mal calculé les choses.
Donc pour avoir un cerveau bien huilé, il faut manger de l'huile, quoi.
Ouais, mais de l'huile, d'où la chanson, d'accord.
Alors, j'ai une autre question, là j'ai plusieurs questions en fait qui sont arrivées. Une question de Cindy, toujours dans le public, sur le Salon Planète Durable. Elle dit finalement, la naturopathie est très proche de la MTC. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vous savez ? Qui c'est ? Alors, qui peut nous préciser ? Est-ce qu'elle est toujours là ?
De la médecine traditionnelle chinoise.
MTC.
Là,
j'ai compris MTC. Moi.
D'accord. La médecine.
Les nouvelles technologies de l'information. Non, de la médecine traditionnelle chinoise, c'est ça ?
Voilà, ouais, c'est ça. Ou même de la médecine ayurvédique. Est-ce Tout que vous êtes
fait.
D'accord ?
Tout à fait. Il y a des bases communes. C'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on voit uniquement l'acupuncture. Mais l'acupuncture était une technique parmi les autres. Il y avait aussi l'alimentation, il y avait aussi l'exercice physique, il y avait toutes ces bases de la naturopathie. Et bien sûr, quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on en a retiré uniquement l'acupuncture. Mais ça formait un tout.
Oui.
Alors, on va passer à une autre question, si vous êtes d'accord, Anne.
Oui, absolument.
Dans le public, toujours, de Sandrine, qui vient de Paris. Avez-vous des préconisations ? Alors, on va voir, faut pas forcément non plus paniquer pour le public qui nous écoute. Avez-vous des préconisations pour se protéger des effets des particules radioactives en provenance du Japon ? Bon, alors, je pense que déjà...
Bon, alors, attendez, parce que là, je peux faire un petit point là-dessus, parce qu'on
voilà,
a eu des...
On en a fait un déjà hier avec Denis Delbecq.
On a eu quand même des réponses qui ont été très rassurantes. On a eu vraiment un expert, un grand journaliste d'investigation sur le sujet et qui dit qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas du tout dans une configuration similaire à Tchernobyl parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on nous avait quand même caché des choses et qu'il y a peut-être eu des conséquences pour notre santé. Il a affirmé ici sur notre plateau hier, et bon, on le connaît bien, qu'il n'y avait pas de risque sanitaire aujourd'hui dans nos pays. Hein. Frédéric,
voilà, il nous a dit très clairement qu'il y avait effectivement un petit peu d'iode radioactif qui était arrivé jusqu'à dans nos contrées en Europe, que les doses étaient insignifiantes, qu'il n'y avait pas à paniquer. Imaginons quand même que, bon, à un moment donné, on est à se protéger. Est-ce qu'il y a, à part l'iode, qu'on fournirait en pastille comme ça ?
Non, moi, là, je ne prends pas position parce que je n'ai pas suffisamment de recul.
Oui,
et que
il faut être prudent.
Il faut être prudent parce que sinon, après, des gens vont se précipiter pour prendre des choses et donc je ne prends pas le risque.
Alors, voilà, donc c'était la réponse. Hein. Il me semble qu'elle est sage, effectivement.
Elle est sage. Alors, juste, je voudrais revenir. On pourrait avoir un exemple de petit déjeuner parce que c'est important de bien démarrer sa journée. Vous parliez de gras. Souvent, c'est un repas qui est finalement oublié. Ou pris vite fait. Quel est le petit déjeuner idéal que vous pourriez nous recommander très concrètement ?
Au printemps, ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre des fruits écrasés, par exemple, mélangés, par exemple, avec un petit peu de, du lait de soja ou du lait d'amande ou du lait de noisette si on n'est pas allergique, bien entendu. Pourquoi ? Parce que en même temps, il faut faire un apport de protéines. Pourquoi les protéines ? Parce que quand on digère les protéines, ça donne des acides aminés. Et ensuite, ces acides aminés rentrent dans la cellule et la cellule refabrique des protéines organiques, notamment ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Or, le matin, nous avons besoin énormément de neurotransmetteurs pour permettre à l'influx nerveux de passer de cellule à cellule jusqu'au niveau du cerveau. Donc, il faudrait manger normalement des fruits avec une source protéique, soit, bien sûr, végétale, soit, pourquoi pas, des œufs ou un peu de poisson, ou des choses comme ça le matin. On devrait faire un repas beaucoup plus conséquent, ouais, à l'anglaise, anglo-saxon, beaucoup plus conséquent, comparativement à nous, avec notre petit café, avec des petits croissants ou des petites choses comme ça, où c'est une aberration complète.
Oui, on cherche l'excitant, nous.
Un peu d'huile, justement, le matin, pour mettre l'huile dans le moteur.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr des céréales aussi. On peut prendre une banane écrasée, des oléagineux, avec, on peut prendre des graines de lin, on peut prendre des amandes, on peut prendre des graines de tournesol. On passe tout ça dans le moulin à café ou dans le moulin à poivre, et on mélange tout ça en rajoutant un petit peu, une ou deux cuillerées à soupe, par exemple, d'huile de tournesol ou de colza.
Ou multi-huile.
C'est un peu l'huile, c'est un peu le petit régime que préconisait un petit peu le docteur Kousmine.
Oui, c'est ça.
La fameuse crème Pudwig. Oui. Alors, sans en mettre de trop, parce que sinon, c'est des mélanges un peu intempestifs. Et c'est vrai qu'au niveau digestibilité, il y aura quand même un petit peu de lenteur.
Alors, sur les amandes, juste une petite précision, il faut les tremper. Hein. Au préalable, c'est mieux. Hein.
Tremper la veille au soir, et comme ça, on retire la petite pellicule qu'il y a au-dessus. Et c'est vrai que sinon, c'est un peu plus digeste. Et les amandes, c'est excellent parce que ça contient des enzymes qui favorisent la digestion des amidons.
Et est-ce du calcium.
On peut vous appeler docteur ?
Non.
Non ? Alors, comment on vous appelle ?
Christian.
Et toi ?
Non, parce que j'ai l'impression.
Oui, c'est ça.
Donc, le professionnel de santé, peut-être ?
Si vous voulez.
Ouais. Alors, vous êtes le premier professionnel de santé qui conseille de mettre de l'huile. Truc comme ça.
Ah, non, mais c'est très important, ça. Pourquoi ? Parce que les huiles de première pression à froid, vierges et biologiques, j'insiste là-dessus, c'est elles qui vont fabriquer les membranes cellulaires. Et si on veut que nos cellules permettent une certaine perméabilité entre l'intracellulaire et l'extracellulaire, il faut qu'elles soient faites avec des acides gras insaturés. Si elles sont faites avec des acides gras saturés, puisque c'est saturé, il n'y a plus de communication entre les deux. Quand vous êtes saturé, peut-être tout à l'heure, dans quelques minutes, vous serez saturé de mes propos, eh ben, il n'y a plus possibilité qu'il y ait une communication. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les acides gras, c'est eux qui participent à la formation des hormones, notamment les hormones sexuelles, le placenta. C'est elles qui fabriquent également une partie des neurotransmetteurs, qui favorisent également le transport des vitamines liposolubles. A, C, D, E, K, etc., etc.
Alors moi, si je peux me permettre, c'est vrai que les acides gras, enfin tout ce qui est gras, a été complètement diabolisé, notamment par les médias et les médias féminins, qui cherchaient la minceur à tout prix. Et parce que effectivement, on est dans une société où on consomme beaucoup de mauvaises graisses, on a diabolisé toutes les graisses dans le même panier. Et voilà comment on est arrivé là. Enfin moi, en tout cas, c'est tout mon explication. Fait. Je ne sais pas si vous en avez une autre.
Et
moi, je consomme beaucoup d'huile tous les jours.
Et a priori, ça n'a pas l'air de vous faire grossir, Anne.
Non, pas du tout. Donc c'est non mais enfin bon
non mais c'est surtout les huiles qui sont brûlées, qui sont mélangées, transformées, etc. C'est ces cellules là qui ensuite peuvent se stocker dans certaines situations au niveau des cellules un peu plus ou moins vides.
Donc des huiles crues, première pression à froid, biologique.
Tout à fait.
À retenir. Alors je sais pas, il nous reste 1 minute 30. Le reste de la journée, on l'organise comment côté nutrition?
Alors par exemple, à vers 10h, on peut prendre à nouveau un fruit. Une pomme, une poire, une banane. On essaye d'éviter, plus ou moins en fonction de son tempérament et de sa constitution, on va essayer d'éviter tous les aliments acides. Tout ce qui est orange, citron, pamplemousse, tomate cuite, ananas, épinards cuits, rhubarbe, oseille.
On essaye d'éviter. Ouais. Bon, d'accord, oui.
Alors, surtout les agrumes. Pourquoi ? Parce que les agrumes, ça pousse dans les pays chauds, d'ailleurs.
Alors, on va pas juste passer au reste de la journée. Parce qu'on renverra à vos livres. On renverra à vos livres parce qu'on va pas avoir le temps de tout organiser.
À midi, une petite crudité avec des huiles de première pression, avec un peu de vinaigre de cidre et des aromates. Ensuite, éventuellement, des légumes verts cuits avec plus ou moins des céréales complètes ou demi-complètes en fonction de l'état de son intestin. On peut mélanger les deux. Au niveau protéique, soit des œufs, soit du poisson en vapeur ou alors cuisson vraiment très douce, ou alors un petit peu de volaille. Okay. Ensuite, vers 17h, on remet à nouveau un fruit. Et le soir, un bon potage bien épais ou alors une crudité avec éventuellement des pommes de terre vapeur ou à l'eau. Et puis un petit œuf si on a vraiment faim ou quoi que ce soit.
Oh là, le potage épais le soir.
Comment ?
Le potage épais le soir, c'est pas trop indigeste.
Non, pas du tout.
D'accord, c'est même conseillé.
En hiver.
En hiver, d'accord. Très bien.
Oui.
Ah ben bah, allez-y. Anne.
Non, je rappelle simplement que effectivement un bon esprit de synthèse. Tous les conseils de Christian, puisqu'il est expert aussi sur Féminin Bio, on peut les retrouver sur notre site. Et puis Christian Brun est également l'auteur de nombreux ouvrages et puis d'un grand livre de la naturopathie. Apparaître très prochainement aux éditions Erol. Voilà Frédéric, pardon.
Eh ben non, très bien, c'est ce que je voulais dire. Donc c'était la conclusion. Vous l'avez bien faite.
Merci.